Entreprise et Habitat, redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, opus numéro 2 de la défense du pouvoir d'achat des Français. Tout un programme pour relancer le logement en France avec des solutions sur lesquelles nous travaillons, nous évoquons et nous débattons avec notre partenaire, la Sofiap notamment. En l'occurrence, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurent Permas, le président directoire de la Sofiap. Bonjour Laurent.
Bonjour Sylvain.
Émission numéro 2, défense du pouvoir d'achat des Français. Il y a beaucoup à dire en termes de données, Laurent. C'est ce qu'on va décrypter tout à l'heure avec nos experts. Et vous le savez, pour chaque numéro, on fait en sorte, avec Laurent, d'inviter, également avec Grégoire, notre producteur, d'inviter des élus de la République pour pouvoir justement disserter, dialoguer sur ces sujets majeurs pour les Français. Et en l'occurrence, nous n'allons pas bouter notre plaisir, puisqu'on a le plaisir d'accueillir la députée Anaïs Glemmer, qui vient d'ailleurs de présenter un texte de loi sur la location saisonnière, une victoire parlementaire, quelqu'un qui connaît très bien son dossier, ce sont des élus comme on les aime, qui parle franc, qui parle bien, et avec lequel nous allons débattre. Le logement des Français, c'est l'affaire de tous, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est celle aussi du pouvoir qui nous gouverne et du régime dans lequel nous nous trouvons. Mais tout d'abord, le sommaire de l'émission, comme d'habitude, les amis, on vous propose le journal animé par Grégoire Daricot, et ensuite on fera un petit édito pour une petite mise en bouche de l'émission qui va augurer du débat avec Laurent. C'est tout de suite après ça.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Comment va notre Grégoire national ?
Très bien, Sylvain. Ravi d'être ici en plateau avec vous, comme toujours.
Ah bah ça fait plaisir. D'ailleurs, on se voit régulièrement. Grégoire, animateur, producteur, bref, le couteau suisse des médias. Aujourd'hui, vous avez voulu nous parler du lien emploi et logement, lien majeur.
Oui, Sylvain. La dernière émission, on a fait un lien, on a parlé de primo-accession. Cette fois-ci, je voulais faire un focus sur ce lien entre emploi et logement, parce que figurez-vous que le logement, il occupe une place centrale pour les Français, et une place centrale dans l'emploi des entreprises. C'est pas moi qui le dit, c'est notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a déclaré. Il l'a déclaré il y a quelques semaines sur Europe 1. Alors pourquoi le ministre a fait ce parallèle ? En fait, c'était à l'occasion de la communication des derniers chiffres du chômage, qui atteint 7,5% sur ce premier trimestre 2024. Un chiffre en hausse depuis la fin de l'année 2022, puisqu'il a augmenté de 0,4 points en 12 mois, soit 142 000 chômeurs supplémentaires. Alors, le problème, d'après le MEDEF, c'est que nous avons aujourd'hui en France 6 employeurs sur 10 qui expliquent que le logement est un des freins à l'emploi. À ce chiffre s'ajoutent ceux de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui représente 239 000 entreprises et 3 millions de salariés. Elle a interrogé ses dirigeants fin novembre 2023 et 50% d'entre eux souhaitent recruter. Le problème, c'est qu'ils sont 1 sur 5 à affirmer que leur salarié a renoncé à rejoindre l'entreprise faute d'accès au logement. Oui, Sylvain, de nombreux salariés n'arrivent pas à se loger et donc doivent faire une croix sur leur CDI dans certaines régions de France.
Alors, ce que vous dites, si on veut décrypter, c'est que le logement et l'emploi sont des facteurs, un, d'intégration, mais aussi de précarisation, puisque l'éloignement du lieu de travail augmente la précarité. Donc il faut rétablir ce lien emploi-logement, c'est bien ça ?
Oui Sylvain, on peut clairement dire que les liens entre emploi et logement, ils sont pas assez pris en compte, en tout cas pas comme ils devraient l'être. Ça c'est ce que pense aussi la Fondation Abbé Pierre. Depuis la crise de 2008, c'est indéniable. L'emploi, il est soumis à de profondes évolutions structurelles. On parle beaucoup de flexibilité du travail, de mobilité des salariés, on a parlé de télétravail. Et face à ça, on a une progression limitée du salaire et donc du pouvoir d'achat. Ben forcément, ces problématiques, elles touchent aujourd'hui une classe moyenne qui était jusque-là épargnée. Et le problème, Sylvain, c'est que le logement est lui aussi de plus en plus concerné par ces évolutions. On a une production de logements qui est inaccessible aux plus modestes et qui est insuffisante. On a un parc privé et public locatif qui est en fort besoin de réhabilitation et on a une offre de logement qui est finalement inadaptée. Le logement et donc l'emploi, ils se trouvent impactés.
Alors, heureusement, a priori, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ouais, les jeunes ont toujours une envie d'accession à la propriété. On est d'accord ?
On est d'accord. Je vous en avais parlé d'ailleurs lors de la précédente émission. Ils sont 65% des 25-35 ans à toujours vouloir investir dans l'immobilier. Ces jeunes Français, ils ont pourtant vu leurs plans et leurs ambitions évoluer ces dernières années. Alors là, on fait un petit retour en arrière. Je vous propose de vous replonger en 2001. La France découvre l'histoire de Tanguy, ce jeune adulte de 28 ans qui vit toujours chez ses parents. Alors à l'époque, l'expression t'es un Tanguy elle pouvait prêter à sourire. Et aujourd'hui, malheureusement, le phénomène, il s'accroît. Ils sont de plus en plus nombreux à connaître cette expérience. Et même en CDI, la Fondation Abbé Pierre, toujours elle a chiffré 4,92 millions de 18-35 ans qui sont des Tanguis. Un chiffre en augmentation puisqu'ils sont 250 000 de plus qu'il y a 7 ans. Bref, vous l'aurez compris, mon cher Sylvain, il y a encore un peu de boulot.
Alors, il y a du boulot et croyez-moi, l'accession à la propriété, comme le logement tout court, il en a pris du plomb dans l'aile. Il serait bien que notre exécutif s'en charge un petit peu. Merci Grégoire pour cet éclairage. Comment l'entreprise va-t-elle aider ses salariés dans la primo-accession, le rôle aussi des politiques dans cette action ? Quel rôle peut jouer l'employeur ? On va en parler avec cette première rubrique. Attendu l'édito de Laurent Permas, c'est tout de suite après.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour Laurent Permas, toujours aussi actif, on vous a observé ces dernières semaines. Alors c'est simple, vous êtes partout, tantôt au Parlement, tantôt dans des ambassades, à porter ce projet majeur qui vous tient à cœur avec deux directions, puisque vous soutenez l'accession à la propriété, bien évidemment, par le biais de l'entreprise, qui est un levier extrêmement important, mais vous intéressez également au vieillissement des populations, et croyez-moi, c'est un sujet aussi majeur. C'est intéressant d'ailleurs que vous intéressiez à ce sujet. On se demanderait même qu'en tant que président de banque, si vous n'étiez pas sociologue ou professeur de sociologie, à observer la vie des Français. Alors, une enquête Ipsos pour la Sofiap que vous avez commandée est très intéressante. On va décrypter un petit peu cette actualité, Laurent. Quels enseignements on peut tirer, là, comme ça, de cette première enquête ?
Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'enquêtes qui ressortent. Ipsos, INSEE, Banque de France. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir le monde qui a changé. Et c'est même un monde en rupture. Ce monde en rupture, il est déjà sur l'organisation du travail. Avec la période Covid, celle-ci a accéléré ensuite le télétravail. Et donc, le monde de l'entreprise et les salariés, avec le logement, n'a pas vraiment bougé. Vous voyez, il y avait des mesures qui ont été faites au moment du Covid, mais il n'y a pas eu en fait davantage sociaux, davantage salariés.
Pas d'évolution réelle.
Pour accompagner, si vous voulez, ce lien entre l'entreprise, le salarié et son logement. Donc ça, c'est une première rupture. La seconde rupture qui est importante, c'est le financement, la consommation, le budget des Français qui a totalement été inversé. Il y a 35 ans, 35 à 40 ans en fait, le premier poste de budgétaire de consommation en fait des Français, c'était justement lié au voyage, à la consommation.
Les loisirs, l'alimentation.
Ouais, exactement. Aujourd'hui, le premier poste sur l'INSEE des Français, c'est le logement à 31%. Alors ce fameux 31%, il est à ramener aussi sur les normes HSF, les 35%.
Et oui, très bien.
Et vous voyez que 31%, ça s'est passé de façon silencieuse, mais aujourd'hui, c'est un choc qui met à mal les primo-accédants. Parce qu'il faut dépasser très souvent ces 35%, hein, puisqu'on sait déjà 31% dans les charges des Français. Vous imaginez, pour un primo-accédant, l'effort qu'il faut faire avec l'augmentation forte qu'il y a eu des prix au mètre carré. Et c'est pas seulement les taux des banques.
Bien sûr. Et comment les salariés, Laurent Permas, jugent l'accompagnement de leurs entreprises ?
Alors, ils sont plutôt satisfaits. À 66%, ils considèrent en fait que leur entreprise les accompagne sur des moments de vie, de fidélisation, qu'ils retrouvent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un écart entre la vision des chefs d'entreprise. À 88%, ils estiment, eux, qu'ils sont parfaitement satisfaits des dispositifs qu'ils ont mis en place. Et à l'inverse, il y en a un sur deux, c'est les salariés, qui considèrent en fait qu'ils ne sont pas forcément sur les bons moments de vie. Ça, c'est la troisième rupture. Les moments de vie ont changé. Aujourd'hui, ce qu'attendent les salariés, c'est un accompagnement plus fort de leur entreprise sur le moment de vie des aidants, du décès, du handicap, qui peut toucher, en fait, leur famille. 50%. C'est le moment de vie au travers des enfants. Hein, donc, j'ai un enfant et c'est un accompagnement plus fort. Pourquoi ? Parce que c'est plus coûteux d'avoir un enfant. Et le troisième moment de vie qui ressort, bah, c'est le logement, à 60%. Et donc, on voit cette transformation, en fait, qui s'est opérée de façon brutale parce qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et on n'a pas vu cet inversement hein, du budget des Français. Hein, 31%, c'est le logement aujourd'hui.
C'est clair.
Donc, les moments de vie, et ça, c'est, vous voulez, c'est un raccord qu'il y a à faire. C'est pour ça que cette étude était intéressante.
Il y a une question, Laurent, qu'on peut se poser, c'est l'inéquité face à la taille des différentes entreprises, et notamment sur le principe de ce qu'on appelle les avantages sociaux. Alors, il faut aussi un peu briser les tabous. On dit toujours qu'en France, les entreprises ont beaucoup de charges, ont beaucoup de contraintes, ce qui est vrai, d'ailleurs. Et c'est parfois une entrave à la création d'entreprises. Mais néanmoins, il y a des avantages sociaux. Là aussi, sur les avantages sociaux, Laurent, il y a un décalage en concernant ces éléments. On pourrait presque évoquer le principe de l'inéquité sur les avantages sociaux.
Alors, je pense que ces avantages, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été posé par la Cour des comptes, hein, parce qu'on parle de niche fiscale. Ces avantages, c'est encore en lien avec les moments de vie. Si vous voulez, on a... accompagner les salariés au travers de la mutuelle, qui est relativement récente.
Oui, absolument. Hein,
le CESU, qui est relativement récent, et on voit d'ailleurs cet écart avec la demande forte sur l'accompagnement pour les enfants, les aidants, et le CESU peut rendre
ses services. Incroyable, le CESU, c'est vraiment un phénomène de société. Je crois qu'il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui c'est
colossal. Alors, il y a un peu plus d'un million d'utilisateurs, mais
c'est énorme.
C'est très fort comme attente. Et puis, vous avez les titres restaurants, voilà, ce sont des dispositifs, en fait, qui, au fil des années, ont accompagné les salariés sur une attractivité, attachement à leur entreprise.
Voilà, ces éléments-là, Laurent, justement, c'est l'attachement à l'entreprise, c'est le travail sur la marque employeur. L'idée de l'entreprise, pour être très clair, une entreprise qui n'est pas forcément philanthrope, c'est de bien s'attacher sûr. Les meilleurs talents.
Bah, bien sûr. Et de fidéliser. Et vous évoquez très justement cet écart qu'il y a de moyens et d'attractivité entre une grande entreprise, qui a tous les dispositifs aujourd'hui, hein, et nos PME
et nos entreprises
qu'il faut défendre. Et elles ont cette capacité à peut-être pouvoir mettre en place un dispositif autour du logement qui est aujourd'hui le plus attendu par les salariés.
Vous voyez,
en lien avec le budget des Français.
Et vous, Laurent, avec vos équipes, je rappelle quand même que la Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale et de la SNCF, et que vous avez un rôle social éminent depuis très longtemps. Vous, avec le recul que vous avez, vos clients, les entreprises, les PME que vous défendez, elles sont très heureuses. Tout à l'heure, on va rencontrer un patron de PME. Quel retour vous font les entrepreneurs que vous côtoyez tous les jours ?
Alors, pour eux, c'est une solution qui est abordable, parce qu'il faut parler budget. Une chaîne d'entreprise, son sujet, c'est son résultat, l'employabilité et la pérennité de son entreprise. Donc, il va pouvoir fidéliser, garder ses talents, et puis aussi faire le lien entre le logement et l'emploi et la capacité pour les salariés de ne pas faire une heure et demie de transport pour venir de façon plus régulière, eh bien, eux, l'attractivité et la force qu'ils ont, c'est à budget relativement modeste parce que tout le monde n'achète pas la même année. Vous voyez, lorsque une entreprise prend en charge une partie des intérêts du prêt immobilier de ses salariés, avec une enveloppe, hein, 100 000 euros à 2%, par exemple, eh bien, c'est peut-être pour 1, 2, jusqu'à 5%, c'est ce que l'on voit, de salariés qui vont acheter et qui vont aller chercher, en fait, cette participation d'entreprise sur une même année. Vous voyez, donc, le budget n'est pas le même, avec un impact extrêmement important par rapport à d'autres budgets qui sont, là aussi, collectifs. Mais le titre restaurant, c'est tous les jours.
Alors, justement, je reprends les chiffres que vous aviez indiqués. C'est 64% des Français, des salariés, se disent attachés à leurs entreprises. Et en fait, la variable c'est de cet attachement, c'est selon l'investissement, la graduation de l'investissement social que fait l'entreprise à l'égard de ses salariés. Là aussi, il y a quand même de grosses disparités. Si je vous demandais à vous, Laurent Bernas, de faire un peu la synthèse de cette étude, qu'est-ce qu'il faudrait retenir comme info clé ?
Que aujourd'hui, les dispositifs et les avantages sociaux, il y a un prisme fort, il y a une priorité forte à donner sur le logement. Et ce dispositif, il est accessible pour l'ensemble des entreprises, encore plus pour les PME et les petites entreprises, qui ont besoin d'un dispositif pour pouvoir fidéliser leurs collaborateurs, puisqu'ils partent en fait. Hein, 86% se disent attirés par une entreprise qui va offrir en fait un dispositif plus intéressant en termes d'avantages.
Bien sûr.
Et donc le prisme, c'est le logement, parce que je fais le lien avec un changement en termes de poste de charge des Français dans leur ménage, c'est 31% le logement. Et il y a un dernier point...
Et c'est une dépense contrainte.
Absolument. Et il y a un dernier point, c'est que les Français sont toujours intéressés par la propriété. Pourquoi ? Parce que c'est de l'assurance. Il y a de la peur. Il y a la peur de demain. Et le fait d'être propriétaire, eh bien, c'est aussi de l'épargne. Hein, c'est de l'épargne immobilière. Et ça rassure. Et on voit bien que nos pensions de retraite sont insuffisantes, puisque lorsqu'on regarde l'étude sur les différents avantages préférés par les salariés, le premier qui arrive largement en tête, à plus de 41%, c'est l'acquisition de son logement.
Bien sûr.
Et l'épargne salariale arrive à 16%. Vous voyez, donc il y a eu un voilà, parce que les Français ont cette difficulté.
Mais c'est vrai qu'il y a un lien
à pouvoir mettre de côté pour de l'épargne retraite.
Alors c'est sans appel.
C'est nécessaire aussi.
La propriété, c'est sans appel. C'est-à-dire que il y a un lien entre l'antre protectrice, la vision maslonienne du logement, qui est là aussi où se forment aussi les projets de vie. Et donc, plus on délocalise les logements, plus on les sort, par exemple, des accès à la culture, des accès à l'emploi, des accès à l'éducation. Et là aussi, il y a une très forte inéquité. Merci beaucoup, Laurent, pour cet édito. Je vais vous proposer, Laurent, comme c'est l'usage pour ce numéro 2 d'entreprise et habitat, deuxième numéro, c'est d'en débattre avec une personne qui le met en place, un entrepreneur. Et en l'occurrence, nous allons recevoir tout à l'heure Johan Berthou, qui est le président de Xperion, et nous recevrons Anaïg Lemeur, le député de la première circonscription du Finistère, dont on parlera de ces sujets majeurs pour les Français, pour vous, pour nous. Le logement est une question absolument cruciale. À tout de suite.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, reprise de notre émission Opus numéro 2 avec Laurent Permas, président du directoire de la Sofiap. Merci Laurent d'être avec nous, numéro 2 pour la défense du pouvoir d'achat immobilier des Français. Un débat où nous recevons avec grand plaisir Anaïg Lemeur. Bonjour Anaïg Lemeur.
Bonjour Sylvain.
Députée de la première circonscription du Finistère, vous avez l'habitude de nos plateaux, vous avez fait l'honneur de venir et bravo, puisque vous avez remporté, on peut le dire, une victoire à l'Assemblée, presque adoptée, quasiment adoptée, la loi sur la location saisonnière. Je vous propose d'en parler, d'en dire quand même quelques mots, on ne va pas bouder notre plaisir. Il était temps, enfin, que les élus de la République s'en préoccupent. Merci de l'avoir fait. Dans cette émission, avec Laurent Permas, on a toujours décidé d'avoir un entrepreneur qui représente les entreprises de France. Ah, désolé, Johan, c'est pour vous.
C'est bon.
Voilà, vous êtes représentant, vous êtes patron d'une PME qui s'appelle Xperion. Vous êtes spécialisé dans le software et l'asset management. C'est un domaine que l'on connaît bien, puisque on travaille beaucoup avec les gestionnaires de patrimoine ici, notamment les conseillers en gestion de patrimoine. Johan Berthou, merci beaucoup d'être avec nous, puisque vous êtes l'illustration de cet entrepreneuriat soucieux de ses salariés et de son attractivité, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Si on veut attirer les talents, c'est clair, il faut leur proposer des avantages sociaux, on est bien d'accord.
Ah oui, il faut se montrer un attirant, il faut se montrer intéressant, savoir convaincre les jeunes et avoir quelques arguments effectivement pour les faire venir quand on est sur des marchés concurrentiels au niveau de l'emploi. Tout à
fait. Et vous nous expliquerez d'ailleurs comment vous avez adopté cette solution pour la mettre en place pour vos talents. On va commencer par vous, Anaïg Lemeur. On peut pas nier, vous êtes d'accord, l'ampleur de la crise du logement qui nous frappe. C'est une crise sans précédent. Alors, je ne vais pas revenir sur les poncifs qu'on a développés tout au long de ces dernières semaines. Voilà, conjoncturels, structurels, phénomènes exogènes comme la crise et la guerre en Ukraine, crise des matériaux, absence de signature de permis de construire pour des maires frileux qui n'ont plus de fiscalité pour travailler, puisque forcément, quand on construit du logement, il faut penser les voies d'accès, il faut penser à l'éducation, il faut penser à les crèches. Et ils sont un peu, étranglés dans des équations contraires, et c'est pas simple. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, publié par Christophe Robert, le 1er janvier 2024, a pointé de façon assez violente ce qui est en train de se produire. Si je vous demandais à vous, qui connaissez bien le sujet, Votre lecture de la situation, vous diriez quoi aujourd'hui ?
Actuellement, c'est vrai que ça, on est dans une situation très complexe. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez dit, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une raison unique à la crise du logement. La crise du logement, elle est réelle et elle est de plusieurs niveaux. Donc, tout le monde, en fait, peut contribuer pour lutter contre cette crise du logement et pour faire sa part, prendre sa part pour trouver des solutions à cette crise. Maintenant, on voit bien que ce sont des freins, notamment, là, on parle d'entreprises, des freins, justement, au recrutement. On est quand même dans une volonté de plein emploi. Il a été dit par le gouvernement que c'était notre volonté. Maintenant, plein emploi, réindustrialisation ne seront jamais possibles si on ne met pas les différents calques les uns sur les autres. C'est-à-dire, le calque, effectivement, de la souveraineté et de réindustrialisation ne peut se faire que si on met le calque du logement, le calque de la mobilité. Il y a un moment où l'ensemble doit être considéré et donc ça rend plus complexe que de prendre un seul outil. Il est plus facile de dire, effectivement, on veut de la souveraineté, de la réindustrialisation, mais si on ne le fait pas tous en commun, avec aussi une volonté au niveau des collectivités, avec une capacité, en fait, à chacun de pouvoir se loger, mais pas que se loger. Derrière, je l'ai dit, avoir des mobilités, avoir du numérique, l'accès au numérique pour les entreprises. Il y a encore des zones qui ont des difficultés d'accès au numérique. Ben voilà, c'est tout cela qu'il faut considérer. Donc, effectivement, on est dans une société bien plus complexe, mais avec aussi une volonté qui reste un peu basique de chacun, qui est le première chose qu'on peut rêver, c'est d'avoir un toit sur sa tête. Au bout d'un moment, on peut pas être avec ce sentiment qu'il y a actuellement de déclassement, en disant, mais j'ai de l'emploi. Mmh. On m'a dit que j'étais bien parce que j'avais de l'emploi. Mais derrière, je peux pas accéder à un logement. Donc, il y a une incohérence, en fait, dans la situation.
C'est presque un contrat social qui n'est pas honoré par la République, qui dit, fais des études, trouve du boulot, mais en même temps, loge-toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, bon, j'ai étudié, j'ai bossé, puis j'arrive pas à me loger, problème.
Ça crée, effectivement, un sentiment d'incompréhension. Certains déclassements, parce que certains aspirent, du coup, à avoir un logement et... Là où ils en trouvaient, notamment dans le parc privé.
Il y en a certains même qui parlent de relégation sociale.
Oui, oui. Mais ce sentiment, on l'a senti sur plusieurs niveaux. C'est vrai que moi, j'ai traité la notion des logements de courte durée parce qu'on sentait une tension sociale d'incompréhension et de se dire, mais c'est pas juste. Eux, ils ont des logements. Nous, on en cherche. Et on veut habiter ici, on veut développer notre territoire, parce que derrière, c'est toute une économie territoriale qui se génère. Vous avez parlé des écoles, mais il y a derrière des voiries, mais ce sont des travaux, des médecins, des centres au niveau de santé, parce que quand on parle de déserts médicaux, c'est aussi qu'en face, il faut avoir une activité forte sur des territoires pour les rendre attractifs. On parle d'attractivité de l'entreprise, mais c'est de l'attractivité territoriale. Ça va bien au-delà et ça crée des situations de nécessité d'aménagement dans un contexte, en plus, avec un environnement où il faut le protéger. Donc, on peut pas faire n'importe quoi non plus, parce que derrière, au niveau écologique...
On reviendra d'ailleurs sur votre loi, que je peux vous dire que moi, je l'ai soutenue, et Dieu sait que je ne suis pas très majorité présidentielle, tout le monde le sait. Mais vous avez pris les choses dans le bon sens, en fait, parce qu'il y a quand même... je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure, si vous voulez, nous expliquer pour nos auditeurs et auditrices sur, justement, le bien fondé de cette loi. Parmi les conséquences de cette crise, on voit clairement un impact sur l'emploi. On est d'accord là-dessus. Je vais vous demander simplement votre retour d'expérience. Je vais commencer par vous, Johan. Vous êtes entrepreneur. Experian, vous l'avez créé depuis combien de temps ?
Oui, je vais revenir effectivement sur Experian et son contexte. Donc, Experian, c'est une société que j'ai fondée début 2023. Donc, on est sur quelque chose d'assez récent. Aujourd'hui, on compte 4 consultants plus moi-même. On fournit des services d'assistance opérationnelle en software asset management, qui est pas exactement, je pense, ce que vous aviez en tête en termes de gestion du patrimoine. On parle vraiment de la gestion du patrimoine logiciel.
D'accord.
On n'est pas dans l'immobilier.
J'avais compris asset management dans le sens de l'arbitrage et de la gestion de biens immobiliers.
La gestion des actifs logiciels.
C'est hyper pointu, ça, comme...
Effectivement. Alors, hyper pointu, c'est un métier d'expertise qui va consister essentiellement dans le fait d'analyser la conformité d'une entreprise en termes de licence logicielle et d'optimiser ses dépenses dans cette catégorie de dépenses. Donc, ça va être des métiers qui vont nécessiter des compétences à la fois en termes d'analyse contractuelle, les contrats des entreprises avec les éditeurs, les Microsoft, IBM, Oracle, etc. Ça va nécessiter de savoir manipuler de la donnée, donc des compétences d'analyse de données, et une certaine compréhension de l'infrastructure informatique des entreprises. Parce que selon la configuration ou les technologies que vous utilisez, vous n'allez pas avoir besoin du même nombre de licences. Donc c'est quelque chose d'assez transverse qui n'est pas enseigné dans les quels que soient les cursus ou très peu on va dire. Et donc ça fait mécaniquement qu'il y a peu de profils sur cette activité.
C'est un apprentissage empirique à partir d'un prérequis de type ingénieur par exemple.
Et effectivement, c'est assez empirique. Alors on a différents profils, soit des gens type ingénieur informatique, soit des gens qui vont être issus du droit. Ou des achats avec les écoles de commerce.
Oui, parce que vous relisez les contrats, vous les renégociez pour le compte des clients également.
Et oui, il peut y avoir une partie de rédaction de ces contrats.
C'est quoi votre modèle économique ?
Mon modèle économique, c'est de l'assistance opérationnelle. Donc, ce sont des consultants qui vont
c'est ce qu'on appelle du jus de cerveau que vous vendez.
C'est du jus de cerveau, oui, voilà. Effectivement.
Ah, je fais la même chose, je vais vous dire. Bienvenue au club.
Avec quand même la structure Experion qui essaye d'apporter le maximum de valeur ajoutée à ces consultants. Maintenant que j'ai fixé ce cadre, voilà, faut comprendre que ce sont des profils assez rares. Il faut savoir se démarquer, il faut savoir travailler sa marque employeur, notamment parce que parmi les concurrents à l'emploi, ça va être des noms comme Deloitte ou Ernst & Young qui vont faire ce type de prestations. Donc il faut trouver le moyen d'exister. Et je pense qu'on reviendra par la suite sur les avantages que représente le dispositif.
Vous avez adopté la solution Sophia, on est d'accord ?
Voilà.
Est-ce qu'actuellement, les personnes en bénéficient ?
Alors, on a signé la convention de la Sophia il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, honnêtement...
Et donc vos collaborateurs savent que s'ils achètent un appartement ou une maison en termes de résidence principale, on est bien d'accord, Laurent, c'est la résidence principale qui est concernée.
Ça, c'est l'entreprise qui choisit, mais d'accord. C'est la résidence principale aujourd'hui. C'est la résidence
D'accord, c'est la résidence principale. Vous abondez les intérêts de l'emprunt, ce qui fait que, en fait, vous divisez quasiment par deux le taux d'intérêt pour les salariés, c'est bien ça ?
Oui, ça, c'est ça. Alors, effectivement, ils sont informés de la
comment
démarche.
Comment l'ont-ils accueilli ?
Eh ben, ils l'ont accueilli très bien. Ils l'ont accueilli comme un
avantage. Vous vous rendez compte, quand on a un taux d'intérêt à 4 et que vous dites à votre salarié, tu sais quoi, si jamais tu achètes ta maison, moi je te paye la moitié des intérêts, du style, il me manquait la chambre pour le petit, oui, j'avais besoin de plus de mètres carrés. En faisant ça, l'entreprise permet, en fait, non seulement de resalvabiliser, parce que je précise que la Sofiap est aussi une banque qui check les dossiers en termes de risque, donc c'est elle qui prête. Et vous resolvabilisez, donc finalement, c'est un double effet extrêmement positif. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour vous, vous considérez ça comme un investissement, je suppose ?
Oui, comme un investissement. En tout cas, c'est dans l'optique de fidéliser des collaborateurs déjà présents qui ont accueilli très favorablement cette démarche, effectivement. Et puis, c'est aussi dans l'optique de favoriser des recrutements, parce que je m'en aperçois sur les... Moi, je vais faire des processus de recrutement assez longs, où au final, on a le temps de discuter de pas mal de choses, et dont j'ai commencé avec certains profils que je pense recruter à évoquer cet avantage qu'il va y avoir chez Experion, etc. Je sens bien que ça accroche, quoi.
Ça accroche, mais oui, ça accroche, le logement, ça accroche. Laurent, justement, alors... je vous voyais écouter avec beaucoup beaucoup d'attention. Johan Berthoud, c'est le relief de l'entreprise que vous soutenez dans vos actions, quelles que soient les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, puisque on a des entreprises, des PME chez Sofia, mais on a aussi des groupes comme Safran, par exemple. Donc il n'y a pas d'exclusive. Ça vous réjouit quand vous entendez ce type de discours des entreprises engagées?
Je trouve
ça confirme votre action au quotidien.
Oui, c'est très concret. Si vous voulez, ce dispositif, c'est tout simplement une convergence entre une problématique des Français, notamment des primo-accédants aujourd'hui, et des entreprises qui ont cette difficulté de fidéliser, de recruter. Et puis, le logement est devenu tellement difficile, en fait, dans son accession. Et pourtant... Les Français souhaitent l'avoir, souhaitent être propriétaires. Moi, ce que je trouve très impactant, c'est que les petites entreprises ou les entreprises moyennes accèdent à ce type de dispositif pour justement être au même niveau que des grandes entreprises qui ont des moyens plus importants en termes d'avantages sociaux et qui drainent forcément des jeunes qui accèdent, des moins jeunes aussi, mais qui accèdent au travail avec une certaine aujourd'hui inquiétude du futur. Et donc, qu'est-ce qu'ils recherchent ? La stabilité, la sécurité.
Bien sûr.
Et donc les avantages sociaux sont extrêmement importants, notamment le logement.
Alors, avantages sociaux, puisque effectivement, on en parlera, et j'aimerais justement qu'on revienne vers vous, parce que, Anaïs Glemeur, vous avez milité pour la réforme de la fiscalité locative, vous avez proposé un texte de loi qui a été adopté. Donc, je voudrais que vous reveniez là-dessus.
Avant, je voulais poser une question à Johan. Je voulais savoir quelle était sa démarche. Est-ce que ça a été une demande des salariés initialement ? Et comment vous avez fait pour contacter la SOFIAP ?
Alors, ça s'est fait en deux temps, en fait. Au mois de février, j'ai un de mes consultants que j'appréciais énormément qui a posé sa démission. Donc, ça m'a... Enfin, voilà, ça me plaisait pas, quoi, clairement. J'ai voulu faire un peu de recherche supplémentaire en termes de dispositifs de fidélisation des collaborateurs.
Et comment éviter qu'ils partent trop à la concurrence
et
éventuellement même monter leur boîte.
Ou chez le client. Mais voilà, donc, c'est à ce moment-là que j'ai vu déjà le dispositif de prêt subventionné de la SOFIAP au milieu d'articles qui recensaient aussi la mise en place de l'intéressement, d'avantages salariés que j'ai mis en place dès la première année, ou des clauses de rétention qui vont avoir un imaginaire un peu plus délicat. À ce moment-là, dans ces recherches-là, moi, j'avais cru comprendre que c'était pas fait pour moi, en fait, que c'était pas fait pour une société de...
Oui, une TPE, il n'y a pas accès parce que je suis pas assez gros, par exemple.
Je suis pas assez gros. On me parlait de comment ça s'appelle déjà les services, les CE, les comités d'entreprise, etc.
CSE.
Je m'y retrouvais pas forcément. Et quelques semaines après, j'ai vu un épisode de Capital qui traitait de la problématique de la SOFIAP, qui mettait en scène une entreprise qui me semblait beaucoup moins grande que celle que je voyais comme étant les clients de ce dispositif jusque-là. Et à force, parce que je m'étais déjà dit que ça avait l'air bien, mais là, en voyant ce reportage, je me suis dit peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être que je peux le faire. Et donc,
oui, c'est un reportage sur M6 dans l'émission Capital.
Voilà.
Où vous avez vu Michael Lenezet, qui est le directeur général de la SOFIA, qui faisait une démo, une proposition, et c'était chez Safran, à l'époque, ou même EDF, je crois.
Je crois pas que c'était chez Safran.
C'est dans une entreprise rennaise, de taille, une PME. Le dirigeant d'entreprise expliquait pourquoi lui l'avait mis en place. C'est déjà pour voir plus régulièrement ses collaborateurs qui, de par le prix en fait du mètre carré, était très éloigné. Et donc, avec le télétravail, ça amplifie en fait un éloignement, puis en même temps de fidéliser aussi ses collaborateurs. Donc on voit Rennes, zone tendue. Hein. C'est pas que Paris.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, le vrai sujet, il est là. C'est qu'on est dans l'hypermétropolisation, l'emploi est très situé, très localisé dans les plus grandes métropoles, et donc forcément, la question du logement se pose. Intéressant ce que vous dites, Johan, parce que, décidément, c'est beaucoup d'impact sur cette émission d'M6, parce que je crois que vous êtes le deuxième que nous recevons ici, qui nous parle de ça. On avait reçu un entrepreneur qui avait effectivement aussi vu l'émission. Donc, cette réforme de la fiscalité locative, elle a un but, Anaïg, c'est de remettre sur le marché, ou vous essayez d'inciter, de remettre sur le marché de la location plus longue. Donc, un peu plus pérenne. Est-ce qu'on va y arriver ?
Oui, on va y arriver. Oui, parce que je bataille, je suis pugnace, je suis bretonne, donc je suis tenace jusqu'au bout. Voilà, il y a un moment où je m'engage pas en demi-mesure. Il y a un moment, il faut y aller. J'adore. Parce que le combat, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je porte tous les gens qui ont cette nécessité. Et, c'est notre engagement, c'est l'intérêt général. Donc effectivement, dans la proposition de loi qui est en cours.
Quels sont les grands traits de cette loi ?
Alors, la loi, elle est sur la régulation du logement de tourisme. Donc, elle est vraiment dans cette visée-là. Donc, elle a plusieurs volets. Elle a un volet d'abord qui est d'avoir plus de données. On a parlé de données tout à l'heure sur le logement et l'usage qui en est fait. Donc, il y a des numéros d'immatriculation, il y a des obligations de changement d'usage. En fait, on ouvre aussi toute la boîte à outils que certaines communes avaient pour réguler, en fait, le parc locatif de courte durée sur leur territoire. On l'ouvre, en fait, cette boîte à outils à toutes les communes. Avant, c'était uniquement les communes de plus de 200 000 habitants. Maintenant, toutes les communes qui le souhaitent, tendues, pas tendues, parce qu'avant, on raisonnait en zone tendue, pas zone détendue. On n'attend pas que les gens soient en situation de tension pour pouvoir agir. Donc, on donne beaucoup, en fait, de préventif et d'agilité, en fait, aux communes de pouvoir se saisir d'une boîte à outils où on peut mettre des quotas, on peut désigner des territoires dédiés pour la résidence principale. Enfin, voilà, c'est une boîte à outils, en fait, qui a été co-construite avec l'ensemble des maires, notamment concernés par de la tension entre le logement de longue durée et le logement de courte durée. Donc, on a construit avec eux cette boîte à outils. Et puis, on a un peu améliorer des endroits où il y avait toujours des recours, parce que comme il n'y avait rien dans la loi. Ça, c'était la plus grosse partie et c'est l'objet réellement de cette loi. Après, j'ai rajouté en fait un dispositif fiscal.
Et oui.
Voilà, j'ai pas résisté longtemps à le faire. C'est vrai que c'était pas l'usage que dans une proposition de loi parlementaire de le faire, parce qu'on n'avait pas d'étude d'impact. Donc, avec une proposition de loi, où je cherchais une équité fiscale pour qu'il soit pas plus avantageux d'aller vers le court durée par rapport à la longue durée.
Vous êtes d'accord que c'était un non-sens, finalement.
C'était un non-sens complet.
Parce que forcément, ça crée une attraction. Moi, je les comprends, les petits propriétaires. Et puis, en plus, vous êtes dans une région qui a une grosse appétence touristique. Effectivement, quand c'est plus favorable sur l'attraction touristique, c'était forcément engagé. D'ailleurs, on a même ici à Radio Immo comparé les taux de rendement, vous savez.
Oui.
Bon, et c'est sans appel. Voilà, le taux de rendement était nettement plus élevé. Donc, je comprends le propriétaire qui dit bah, écoutez, vous êtes bien gentil, je voudrais bien loger les gens longtemps, sauf que. Je suis fiscalisé, pas de la même façon, et puis j'ai pas le même taux de rendement. Donc, voilà. Moi, je le comprends.
Vous alors, nous, en fait, on a, dans un deuxième temps, en fait, la Première ministre m'a confié une mission sur la fiscalité locative, et puis quand le rapport sera public, donc je l'ai remis il y a peu de temps, vous verrez, on a fait des modélisations, justement, pour un même logement, territoire par territoire, en fonction du foyer fiscal, c'est-à-dire aisé, moins aisé, de voir quelle était la rentabilité du logement en fonction des régimes fiscaux qui étaient choisis par le propriétaire. Et c'est sans appel. Enfin, c'est sans appel.
Vous êtes d'accord, hein?
Ah, c'est, voilà. Je veux dire, c'est plus aspiré... que ce que je ne pensais. C'est,
oui. Et Anaïk, ça a aspiré, malheureusement, hein, pour les Français, pour les jeunes étudiants qui veulent se loger, pour faire leurs études, ça a aspiré tous ces logements. Vous savez, ces tailles de logements intermédiaires, les 40 mètres carrés, les petits deux pièces.
On est parti sur 40 mètres carrés, justement, dans notre étude.
C'est un vrai sujet.
Oui, c'est un vrai sujet parce que c'est du logement qui permettait notamment soit de répondre à des fois des ruptures de vie avec des séparations ou autres, mais aussi à une accession des fois à un logement dans les premiers temps de sa vie, c'est-à-dire que 30-40 mètres carrés, c'est quand on commence dans la vie, on est sur ce format-là. Et après, on a la problématique des familles monoparentales aussi beaucoup en France. Et tous ces logements-là où il y a une forte demande... Eh ben, ils ne trouvaient plus de réponse, en fait, dans le parc privé. Donc, c'est vrai qu'ils se retournaient vers le parc social, mais qui était lui aussi saturé. Et on n'avait pas du tout le même l'accès, en fait, à ces logements. C'était des logements qui prenaient aussi une grosse valeur sur le parc de l'achat, parce que la rentabilité se basait non plus sur de la location de longue durée, mais se basait sur la location de courte durée. Vous alliez voir votre agent immobilier et il vous disait, si vous le mettez de temps en temps sur une plateforme, vous allez pouvoir avoir une meilleure rentabilité parce que vous jouez sur plusieurs leviers. Parce que le loyer est plus important et la fiscalité est plus avantageuse. Et en plus, vous n'avez pas de risque d'impayé. Donc, c'était un petit peu tout gagnant. Et donc, du coup, ça faisait monter tout le prix du parc locatif sur un territoire.
Mais oui, en fait, ça a un effet.
Ça devenait une référence.
Sur les valeurs locatives. Et c'est une valeur qui est tronquée à la base, puisqu'effectivement, on est d'accord que dans certaines régions, j'avais comparé certaines régions, par exemple, sur les taux de rendement, sur un taux de rendement long. Vide, on était par exemple, je prends la région autour de Reims jusqu'à Besançon, on avait des taux de rendement qui avaient quasiment doublé par rapport au logement traditionnel. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous allez dans Paris, dans les grandes métropoles, vous mettez une annonce, vous savez, pour loger un petit deux pièces ou un 35 mètres carrés ou un studio, ils sont tous meublés, hein.
80% des annonces, on a fait une étude sur la région parisienne, 80% des annonces proposées en France sont démeublées.
Ouais.
Alors, pour plusieurs raisons, peut-être qu'il faut aussi plus de flexibilité dans les baux.
Ça veut pas dire
qu'il y a plein de raisons
Vous avez raison, Anaïk Le Meur, vous avez absolument raison. Il n'est pas là l'idée de fustiger le fait que, il n'y a que des meublés, etc. Il en faut, parce qu'il y a des personnes qui sont en transit. mais c'est aussi symboliquement le reflet, en fait, de cet engagement sur des fiscalités privilégiées et, disons-le, parfois échapper à la règle de l'encadrement des loyers, d'échapper à des règles normatives qui sont imposées à des propriétaires, à des petits bailleurs, qui ont l'impression d'être complètement ciblés par un gouvernement dont c'est la variable d'ajustement.
Oui, vous les comprenez, ces petits bailleurs ? On va lutter là-dessus. Maintenant, on avait une volonté dans un premier temps d'alignement. Oui. Au niveau fiscalité, parce que souvent l'exemple, 75% des gens dans le régime réel qui étaient en courte durée ne payent pas d'impôts sur leurs revenus fonciers liés à leur activité. Je veux dire, au bout d'un moment, ce n'était pas cohérent. Donc, il y a un moment, il fallait rééquilibrer. C'était comme ça. Je ne leur en veux pas, ceux qui ont investi. Ils ont eu raison, ils étaient mieux informés que d'autres et ils l'ont fait.
Est-ce que vous me permettez une question qui est un peu politique ? Voilà, ce n'est pas un piège. Est-ce qu'il fallait attendre un cinquième ministre du logement, un quatrième gouvernement au bout de deux mandats présidentiels pour finalement essayer de réagir? N'aurait-on pas essayé de réagir plus tôt, quoi? Pourquoi on...
Alors, il ne faut pas me poser la question à moi qui me suis toujours engagée sur ce sujet-là.
Oui, non, voilà, est-ce que vous diriez, oui, effectivement, il était temps qu'on s'en occupe, on a perdu un peu de temps.
Oui, mais je pense qu'on n'avait pas malheureusement suffisamment de données. Et ça a été toute la problématique et on n'en a toujours pas suffisamment.
D'accord.
C'est pour ça que maintenant, on va mettre des numéros d'immatriculation pour mieux connaître la vie des logements.
Oui, je comprends.
Parce que, notre régime fiscal faisait un pêle-mêle. C'est-à-dire que dans le régime BIC, c'est un mélange entre la courte et la longue durée. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'était un pêle-mêle. Et on n'arrivait pas à identifier. J'ai mis énormément de temps pour pouvoir un peu délier
oui,
ça.
Sûr.
Vous savez très bien que la complexité ne fait qu'une chose, c'est de profiter à certains. Donc, plus c'est complexe, mieux c'est pour certains.
Vous avez dit BIC, juste pour les enfants, voilà, BIC, c'est pas les silos, hein, c'est bénéfice industriel et commercial. Merci de l'avoir. Je vous voyais sourire, Laurent Permas. Oui, effectivement, on a un vrai sujet autour de ça. C'est intéressant la relation que ça a aussi avec votre activité. Parce que je voudrais qu'on replace aussi dans le contexte, vis-à-vis de toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que vous plaidez le fait que aujourd'hui, quand on utilise le prêt subventionné, c'est un avantage en nature, mais il est fiscalisé. C'est-à-dire qu'il y a une cotisation sociale. Et votre combat, c'est effectivement de classer le prêt subventionné avec une exonération, ce qui semblerait extrêmement logique, des charges sociales. Ça vous paraît évident ?
Non, ça paraît évident.
Vous savez que ça paraît même comme étant du bon sens.
Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, des avantages sociaux et du retournement qu'il pouvait avoir, notamment sur les dépenses des Français et des ménages, hein, avec 31% des dépenses, des charges qui sont autour du logement. On voit qu'il y a un réajustement à faire aussi au travers des entreprises sur les dispositifs et les avantages, en fait, qu'ils peuvent proposer aux salariés. Le fait de demander une exonération partielle des charges patronales de la participation de l'entreprise, hein, sur les intérêts, eh bien, c'est une logique au même titre que sur l'épargne salariale, qui est aussi pour préparer la retraite. Si vous voulez, les Français, la dernière étude notamment de l'IFOP le pose, les Français ont besoin de cette sécurité et recherchent toujours et encore plus d'être propriétaires, notamment pour préparer.
Donc vous demandez finalement à ce que cette fiscalité soit comparable à celle qui existe sur l'épargne salariale.
Absolument. Hein,
rien de plus.
Voilà, tout à fait, puisque... Alors, c'est pas une fiscalité, c'est une exonération
de charges patronales. Vous avez raison.
Puisqu'on ne demande pas de fiscalité.
Okay. On peut donner les chiffres, justement, exonération, combien, juste un cas pratique.
C'est 27% d'exonération, vous voyez. Donc, c'est très, très clair. Hein. C'est les mêmes véhicules que pour l'épargne salariale, comme ça les DRH, les entrepreneurs.
Est-ce que ça a un coût pour l'État, ça?
Alors, ça n'a pas de coût pour l'État. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui n'accèdent plus à la propriété, ce sont des primo-accédants. Le marché a chuté de 200 000.
Plus
de 220 000 pour être précis. On est passé d'1 million, 1 100 000 même, à 800 000. D'accord ? 800 000 opérations. Ces 800 000 opérations, les chiffres de la Banque de France qui sont sortis la semaine dernière posent 52% de ces 800 000 sont des primo-accédants.
60 000 ? 100 000 ?
52% sur les 800 000,
100 000. C'est
sont des primo-accédants. Ça veut dire que la chute, l'écart entre le 1 100 000 et le 800 000, eh bien, vous en avez la moitié qui sont des primo-accédants, qui n'ont pas pu, en fait, accéder à un logement. Parce que lorsque vous avez déjà un logement, c'est moins difficile. Hein, vous le remettez en vente. Voilà. Alors après, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes mètres carrés, mais pour un primo-accédant...
Non, mais vous l'avez déjà amorti en partie, ça permet de faire un apport, de viser plus grand, etc.
Ce que l'on vise c'est tout simplement, avec ce dispositif de prêt subventionné, c'est l'entreprise qui finance. L'exonération partielle de charges patronales, eh bien, elle est largement équilibrée, voire excédentaire pour le budget de l'État. Pourquoi ? Parce qu'on va financer des Français, des Françaises, des Français, qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc, il n'y a pas de recette. Vous voyez, le manque à gagner, il est tout simplement parce que ces Français retardent ou tout simplement ont un refus de la banque parce qu'ils n'ont pas d'apport.
Le sujet, il est là aussi. Je vais vous poser après la question à vous en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, si vous mettez en place cette solution, aujourd'hui, elle n'est pas, entre guillemets, soumise à l'exonération des charges sociales que vous avez indiquées. Madame la députée, Annaïg Le Meur, vous soutiendriez cette idée de défendre, s'il y a lieu, de dire, voilà, ça serait bien que ce type de prêt subventionné, qui est un des outils facilitant l'accès au logement, un des outils facilitant l'accès à la propriété, qui resolvabilise les Français, et notamment des populations relativement fragiles, que vous soutiendriez ce type de projet?
Alors, en soi, je l'ai déjà soutenu, parce que en fait, ça apparaît, cette solution, dans le rapport que j'ai remis pour le projet de loi finances. Je suis rapporteur sur le budget logement, et effectivement, cette solution était déjà suggéré dans le rapport, avec d'autres, parce qu'effectivement, il y a une multitude d'outils qui sont faits en faveur que les entreprises ont mis en place pour aider, en fait, au logement de leurs salariés. Donc, effectivement, c'était déjà...
Après, la capacité
de pouvoir évaluer réellement le coût, on sait très bien la situation actuelle, on ne va pas non plus se rendre irresponsable malgré tout vis-à-vis de la situation globale.
Une véritable austérité budgétaire.
C'est des choses qu'on doit quand même envisager et regarder. On l'a dit plusieurs fois, maintenant, ce n'était pas la priorité de l'instant, il y avait d'autres priorités à gérer. Maintenant, c'est bien de le rappeler et de le redire. C'est quelque chose qui existe et qui est possible. Je ne dis pas que ça se fera demain.
Mais vous, de votre point de vue, en tant que député, puisque vous avez aussi dans votre circonscription ces sujets d'accès au logement, d'une grande précarité, paradoxalement, même si vous êtes dans un territoire, je vous le dis, c'est magnifique, vive le Finistère. C'est vrai, c'est magnifique.
Voilà. C'est magnifique.
Mais j'adore la pêche, je ne peux pas résister. Voilà. Bon, mais... C'est un vrai sujet. Ça a du sens. Vous voyez, pour l'épargne salariale, ce que disait Laurent Fermat, c'est très juste. Ce que vous demandez, c'est un alignement au même niveau de l'exonération sur, finalement, cet avantage social. Donc, vous bénéficieriez d'une exonération. Je trouve que ça participe, si vous voulez, à cet effort pour faciliter, fluidifier l'offre de logement. Faut espérer qu'on le voit dans les prochains textes, bien évidemment, mais je pense que vous y êtes plutôt engagé.
Ah, bah de toute façon, je suis engagé sur toutes les solutions qui, de toute façon, amèneront du logement à terme, que ce soit par le biais de l'entreprise ou que ce soit par le biais, effectivement, d'organismes autres qui sont déjà préexistants. Il faut rappeler qu'il y a quand même Action Logement qui continue à bâtir des outils.
Oui, mais il n'y a pas d'opposition.
Faveur.
Voilà.
Voilà, il y a quand même. Tout ce qu'on peut faire.
Il y a plein d'outils qui permettent. Il y a Action Logement avec le prêt.
Il y a plein de dispositifs qui ne sont pas uniquement l'achat. Parce que je le dis souvent, la seule solution, ce n'est pas à l'entreprise, pour moi, de faire l'acquisition immobilière. En soi, enfin, ou si elle en est capable, certes, c'est déjà une chose, mais la vie d'entreprise n'est pas la vie du parc immobilier et la gestion d'un parc immobilier, ce n'est pas l'objet de l'entreprise.
Donc, il y a un moment. Elle y est quand même vachement
Elle y est contrainte et elle y va, franchement. Alors, par contre, de se coopérer dans le cadre d'une filière professionnelle, pourquoi pas, pour le faire, maintenant, je pense qu'il faut quand même être réaliste sur la gestion.
Je vous donne un chiffre. 17% des contrats à durée indéterminée n'ont pas pu être signés en septembre 2023.
Oui, je le sais.
Faute de logement. Oui. Et c'est 12% des étudiants qui n'ont pas non plus pu accéder au logement. En location.
Oui.
En location. Mais donc, vous avez raison. Dans le parcours résidentiel, il y a le logement intermédiaire dont assure la promotion largement les politiques. On a des nouveaux modèles comme le BRS, ou le bail réel et solidaire, qui permet en fait de séparer le foncier du bâti. Pourquoi pas Voilà, la solution portée par Laurent Permas, la SOFIAP, a du sens parce qu'effectivement, elle participe de cet ensemble de dispositifs qui ne se catapulte pas avec les autres, d'ailleurs, et qui finalement s'étalonne.
Qui se complète, parce que certains cherchent aussi à rassurer, par exemple, par des garanties, l'accès soit à la propriété, soit à la location locative.
Absolument.
Notamment, on a tous les professionnels de l'intérim qui se. qui se mettent en fait eux comme preneurs du bail et qui sous-louent derrière
absolument,
parce que pour assurer une garantie. Voilà,
mais on peut aussi parler du co-living qui est aussi un moyen d'accéder en métropole avec un double effet, trouver le logement et resociabiliser aussi les personnes qui arrivent seules dans les grandes métropoles. C'est un vrai sujet aussi, bien évidemment. Justement, Yoann Berthou.
Oui, je voulais réagir d'ailleurs.
Je vais vous demander de me répondre d'abord à cette question. Actuellement, vous n'avez pas cette exonération sur les charges patronales, c'est bien ça, hein ?
Tout à fait.
Mais ça ne vous ennuie pas. C'est-à-dire que sera mieux, parce que ce texte, moi je vous le dis, il verra le jour, où le prêt sociable, le prêt subventionné sera, entre guillemets, fera l'objet de l'exonération.
Oui, néanmoins,
vous avez fait vos calculs et vous dites, c'est bon, on y va, quoi.
Oui, parce que en l'état, on sait ce que coûte la rémunération. Quand le coût de l'entreprise va être de 1000, on sait que le salarié, il touchera peut-être 500 en net dans sa poche. Aujourd'hui, quand on est sur du prêt subventionné, ça va correspondre à de l'avantage en nature logement, donc qui va se rapprocher un peu de ce qui se fait au niveau des voitures pour les commerciaux, par exemple. L'avantage en nature logement en France est quand même plus intéressant fiscalement que de la rémunération, mais c'est sûr que ça amènerait un plus de fiscaliser de la même manière
et
que les salariés.
Peut-être même un peu plus loin, hein, parce que dans le prêt subventionné, on peut payer la 100% des taux d'intérêt.
On peut choisir les pourcentages.
Ah oui, on peut. Merci d'entrevue. Non, c'est vrai. C'est génial.
Il n'y a pas de loi aujourd'hui, donc il n'y a pas de plafond. C'est un avantage en nature.
Non, mais voilà, j'achète la maison, il y a 4% de taux d'intérêt, et l'entreprise dit, je prends tout.
Avec une enveloppe, tout à fait, l'entreprise peut le... Elle fait ce qu'elle veut, c'est un avantage en nature.
Et l'entreprise va réfléchir en termes de coûts. Donc si
elle veut, donc
3 000 euros par an.
30%, 50%. C'est génial.
Donc l'entreprise, elle va réfléchir en termes de coûts. Si ça va lui coûter 2 000 par an de subventionner un prêt, elle préfère que ça subventionne 100%, enfin que ce soit complètement dédié au taux d'intérêt, plutôt qu'il y ait une fiscalité derrière.
Vous avez fait des calculs, vous, de l'autre côté, ça va vous coûter combien ?
Ça va dépendre.
C'est l'équivalent d'un mois de salaire par an supplémentaire ?
Ça va revenir à autour de 2 000 euros par an par salarié bénéficiera. Donc c'est une prime, c'est à peu près 2 fois plus que ce qu'on va mettre sur de la participation employeur au ticket restaurant ou des avantages de ce type-là. Donc c'est pas non plus un deuxième salaire d'un coup qu'on va verser, mais ça permet de fidéliser, et d'attirer. Oui, et je voulais revenir, vous parliez des CDI qui ne se sont pas signés
faute de logement. Estimé
à
17% en septembre 2023.
Oui. Alors, moi, quand j'ai fondé ma société, mon idée, c'était aussi d'amener des jeunes vers mon domaine, que je trouve vraiment passionnant, le software asset management, vous regarderez.
Voilà.
Xperion.fr.
Xperion.fr, vous les postulez. On va demander à notre ami Baptiste, notre ingénieur du son, de mettre l'URL www.xperion.fr. Si vous voulez postuler, c'est ici.
Ah, merci beaucoup pour la publicité.
C'est gratuit.
Tout à fait. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sur mes 4 consultants, j'ai recruté 2 jeunes diplômés. Ces 2 jeunes ont eu besoin de déménager pour me rejoindre et pour aller sur leur première mission chez leur client.
D'une autre région.
Alors, pour le coup, il y en avait un qui était en région parisienne et il s'agissait d'aller travailler pour un client qui est plus du côté de Blois, où il y a quelques grosses entreprises. Bancaire notamment, le deuxième qui lui était plutôt basé à Reims et qu'il s'agissait d'aller faire travailler chez un client en proche, en petite couronne parisienne. Vous employez ces gens donc pour lesquels ça va être le premier emploi. En termes de logement, c'est excessivement difficile en fait parce que personne ne va louer à quelqu'un qui n'est plus étudiant, donc ne va pas lui avoir certains dispositifs de garant, qui pour autant va être en période d'essai, représenter des garanties limitées. Moi, j'ai dû payer des... Bah, pour le coup, on parlait de location courte durée. J'ai dû payer des Airbnb pendant 6 semaines et valider des périodes d'essai très rapidement, en fait, parce que sinon, ils n'avaient pas accès... Ils ne pouvaient pas se loger
sur
place.
Donc, ce sens-là, vous le comprenez plus mieux que personne. Hein.
Voilà, je le comprends très bien. Et si je ne l'avais pas fait, ils seraient partis ou ils ne seraient pas venus. Mais il faut, voilà, je viens aussi aujourd'hui ici pour appuyer ce message de la corrélation entre le travail et le logement, notamment pour des populations. Il va y avoir des expertises rares ou pour des jeunes qui vont avoir des complexités particulières. Et que ce soit pour la location ou pour l'achat immobilier, qui d'ailleurs reste une de leurs préoccupations.
Il est malheureusement temps de nous quitter, puisqu'on a largement dépassé le délai, mais encore une fois, nous avons l'avantage ici, dans notre média, de laisser le temps au temps, puisque comme le sait Laurent Pernas, il y a une chose que je déteste en tant que journaliste, c'est les formats courts, vous savez. C'est comment vous voulez résumer une complexité à trois minutes, c'est pas possible. Et on peut pas aujourd'hui insulter les Français... et de dire qu'en 3 secondes, on va leur donner des clés de solution sur les situations qui les occupent. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à le dire et à l'écrire, et c'est bien de prendre le temps et de laisser le tour du temps pour disserter avec des personnes qui sont aujourd'hui capables de donner leur point de vue. C'était le cas pour vous, Annaïg Lemeur, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes députée de la première circonscription du Finistère. Moi j'ai envie de vous dire, ma chère Annaïg, surtout ne changez rien. Voilà.
Merci.
Parce que ça nous réjouit d'avoir des politiques, même si on a des différences peut-être d'opinion politique. En tout cas, une chose est sûre, la vitalité d'une démocratie, ça reste encore et ça demeure le débat. Merci d'être venu ici pour cette émission. Un grand merci à vous, Yoann Berthoud.
Merci de
m'avoir
invité.
Comme quoi, la France a un incroyable talent, parce que, je ne veux pas paraphraser, mais des entrepreneurs qui créent leur boîte, qui s'installent et qui font ce que vous faites pour attirer les talents, même si effectivement l'objectif, et c'est très bien, c'est d'assumer la prospérité de votre entreprise, je trouve ça extrêmement bien, et franchement, ça fonctionne. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine et que ça vous intéresse, vous avez l'URL, vous cliquez dessus, vous allez arriver directement en écoutant l'émission sur le site de Yoann Berthoud. Merci Yoann. Un grand merci à vous, Laurent Pernas, toujours
merci
aussi engagé, passionné, voilà, un banquier passionné, qui travaille pour vous, les amis, parce que l'idée, c'est de vous donner de la respiration. Quand on parle de resolvabiliser, c'est vrai que le terme est un peu compliqué, mais c'est surtout vous redonner de l'espace, un espace de vie, puisque une maison, c'est là où se forment les liens durables, c'est là où se forment les projets, et on sait que les environnements du logement peuvent être parfois des armes par destination. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Donc c'est important aussi de faire en sorte que les entreprises soient les alliés objectifs du logement, même si effectivement, vous avez raison tout à l'heure, Annaïg Lemeur, c'est pas forcément le rôle de l'entreprise, mais elle peut être ce phénomène d'accélération ou être un levier d'attractivité pour les talents. Voilà, fini pour cet opus numéro 2 de Entreprise et Habitat. On va se retrouver très très vite, et rappelez-vous, on va vous donner rendez-vous à toutes et à tous à Longchamp, fin août, puisque en direct, notre ami Laurent Pernas a fait avec tous les entrepreneurs de France, fera la rentrée, c'est la rentrée des entreprises de France à la REF, ce sera fin août, on vous donnera tous les éléments. Cette émission est à réécouter sur les plateformes qui vont bien, en podcast bien évidemment, vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, prenez soin de vous.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap, à réécouter et télécharger sur les sites et applications de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.